Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Le grand live spécial fête du court-métrage, c'est sur Séances Radio avec Bruno Kras et ses invités en direct du Carreau du Temple à Paris.
Bonjour et bienvenue sur cette émission de Séance Radio. Nous sommes au Carreau du Temple, le lieu où tout se passe depuis quelques jours jusqu'à demain soir. Cette grande fête du court-métrage où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent évidemment au court-métrage et au cinéma en général. Il y a des ateliers, vous le savez, en plus cette fête est répercutée un petit peu partout en France, dans une vingtaine de villes, dans des milliers de lieux, avec des milliers de projections de court-métrages. Et on va passer 45 minutes ensemble avec plein d'invités qui s'intéressent, qui sont passionnés par le court-métrage et le cinéma en général. Et ma première invitée, c'est Emmanuel Gaume. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Je vais vous présenter rapidement. Vous êtes une femme de télévision, productrice, vous écrivez. Ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez à la télévision. Vous avez travaillé sur de nombreuses chaînes, sur Arte, sur France 3, sur La 6.
Même sur TF1, vous imaginez.
Et même sur TF1, absolument. Et puis, vous êtes passée d'animatrice, de présentatrice, ouais, à créatrice, j'ai envie de dire, puisque d'abord, vous avez écrit un beau livre romanesque, et le sujet, c'est un sujet original, puisque le sujet, c'est Alice Guy, mm-hmm, qui est une grande personnalité un petit peu oubliée de l'histoire du cinéma, puisqu'on connaît les Frères Lumière, leur première projection, tout ça à la, ouais, Madeleine en 1895.
Ah non, c'était pas à la Madeleine, c'était à la Société,
à la Société.
Place Saint-Germain-des-Prés à Paris.
La première, mais il y en a une autre, la première publique.
La première publique, c'était au Café de la Paix.
Au Café de la Paix, voilà, dans ce coin-là. Voilà, à l'Opéra.
Café
des Capucines. Mais un an après, après, il y a quand même une femme de 20 et quelques années qui, ouais, s'appelle Alice Guy, ouais, qui faisait son premier film. Je sais pas, c'était pas La Fée aux Choux, son premier film.
Si,
c'était déjà La Fée aux Choux.
C'est un court métrage, c'est pour ça qu'elle est à l'honneur dans
Est-ce que la période était machiste et on l'est encore? On parle toujours des Frères Lumière, on parle de Méliès et on parle, ouais, pas beaucoup d'Alice Guy. Et pourtant, quel destin! Alors, comment vous avez rencontré Alice Guy?
Mais je l'ai rencontré en lisant un article dans une presse hyper féminine, même féministe, qui est le magazine Cosette. Donc en décembre 2013, je lis un papier qui titre « Le premier réalisateur était une réalisatrice ». Imaginez mon choc, j'avais jamais entendu parler d'une femme qui était la première à faire des films. Donc au début, j'y croyais pas vraiment. Je me suis dit « C'est Cosette, féministe, qui met en avant une femme et puis c'est pas vraiment la première ». Donc comme je suis journaliste, ben, j'ai fait mon boulot de journaliste, je suis allée chercher des informations et puis ben, je me suis rendu compte qu'effectivement, elle avait été la première femme réalisatrice. Première femme a fait un film qu'on dirait aujourd'hui de fiction, un court-métrage de fiction, qui s'appelle donc La Fée aux Choux, en mars 1896, un an après avoir découvert le,
oui,
cinéma des Frères Lumière.
Oui, c'est ça, ça l'a passionnée.
La
et, ouais, en plus, elle ne travaillait pas avec n'importe qui, elle travaillait avec Léon Gaumont.
Mais
ça,
oui,
l'a aidé.
Bien sûr que ça l'a aidé. C'est une rencontre formidable, la rencontre entre Léon Gaumont et Alice Guy. Ils ont 10 ans d'écart.
Il n'était pas producteur de cinéma au début, lui.
Pas du tout. Lui, il est d'abord, c'est un ingénieur, c'est un géotrouve-tout, hein, monsieur Gaumont.
Léon,
hein,
Gaumont.
C'est,
ouais,
un gars qui s'intéresse à la technique, en fait. C'est un geek, on dirait, ouais, aujourd'hui. C'est vraiment un geek.
Un geek avant la lettre.
Donc son truc à lui, c'est de fabriquer des appareils photo, fabriquer des caméras. Et d'ailleurs, il en fabrique une quasiment au même moment que les Frères Lumière. Ils sont très copains,
ouais,
Gaumont et les Frères Lumière. Sauf que Lumière, eh bien, le bat vraiment.
Ouais, d'une coudée.
Mais ce qui veut dire qu'Alice Guy, qui travaille donc chez Gaumont depuis 1895 et qui elle-même connaît les Frères Lumière, puisque c'est les Lumières qui invitent Alice Guy à la projection donc à Place Saint-Germain-des-Prés en février 1895 pour présenter leur cinématographe, eh bien tout ce petit monde se connaît et Alice, elle a la chance d'avoir tout de suite du matériel puisqu'elle travaille chez Gaumont. Et donc elle fait ce fameux premier court-métrage de l'histoire du cinéma qui s'appelle La Fée aux Choux.
Alors j'accueille, elle s'installe tranquillement, j'accueille Julie Gaillet, la bonne fée protectrice du court-métrage grâce à qui, entre autres,
oh là
cette
là.
Fête du court-métrage existe.
Merci.
Parce que vous êtes, mais c'est vrai, je dis la réalité, Julie, parce que vous êtes évidemment, on vous connaît en tant qu'actrice, réalisatrice, en tant que productrice, et on va parler beaucoup du court-métrage. Mais comme j'étais avec Emmanuel Gaume qui me parlait d'Alice Guy, vous aviez entendu parler d'Alice Guy, vous ?
Absolument.
Vous avez fait des études de cinéma en plus, donc vous devez la connaître.
Oui, en fait, moi, je l'ai entendu parler pour la première fois par Alexandra Lamy. Donc, rendons ce qui est à César est à César. Il y a longtemps, et je ne pouvais pas le croire. Je me disais, c'est pas possible, tu rigoles. Et donc, effectivement, aux États-Unis, au Canada, dans les livres de cinéma, on explique bien que la fiction a été créée par une femme. C'était donc la secrétaire de Gaumont. Et donc, j'ai commencé à lire, à m'y intéresser. Et à ce moment-là, je faisais un documentaire sur la question de la femme dans le cinéma. On interviewait beaucoup de réalisatrices. Et on faisait ça pour Ciné Plus, on s'appelait Cinéaste. J'avais fait ça 20 réalisatrices françaises, puis après 20 réalisateurs à qui je demandais c'est quoi le cinéma de femme, le cinéma d'homme. Donc la question du genre, et on rigolait beaucoup.
C'était super drôle. C'était très intéressant, voilà, c'était passionnant. Je l'ai vu à Angoulême, voilà, il y a 2-3 ans.
Nous, on voulait le faire de manière assez rigolote. Et on terminait à chaque fois en disant, et vous connaissez Alice Guy?
Alice Guy.
Certains ne connaissaient pas beaucoup. Balasco connaissait, elle avait vu un documentaire dans la nuit.
Elle est très engagée.
Non, et ce qui est fou avec Alice Guy aussi, c'est le fait qu'elle est partie aux États-Unis, donc elle a changé de nom, elle s'est mariée. Ce que font les femmes, quand elles se marient, elles changent de nom. Et au moment où elle a changé de nom, c'est le moment où elle est partie aux États-Unis avec son mari. Et donc c'est Alice Guy, Alice Blacher, et on ne faisait pas lien entre les deux. Et ça aussi, ça raconte beaucoup sur la femme qui, tout à coup, change de nom et
disparaît.
Et pense,
elle a vécu longtemps, puisqu'elle est décédée en 1968.
Ouais, elle a vécu 95 années, magnifique.
Ouais. Alors, on était
on
en train
des
de.
Images, ouais, d'elle.
Ouais, très vieille. C'était une jolie femme. Elle commence donc chez Gaumont. Et comment elle met la main sur une caméra?
Elles sont là, les caméras, en fait. Il faut imaginer qu'avant que ce soit Gaumont, il y a une grande boutique. C'est comme la boutique Apple Place de l'Opéra à Paris. Je vous parlais de geeks tout à l'heure. C'est vraiment ça, ce sont des geeks. Donc, lui, il a une boutique qui s'appelle le Comptoir National de la Photographie. Tous les mondains, toutes les personnalités qui ont de l'argent à Paris et même dans le monde viennent se fournir en matériel, caméra photographique et ensuite caméra pour faire des films, chez Gaumont. Donc il y a le matériel, et sur place, elle n'a qu'à tendre le bras pour avoir une caméra. Contrairement à Méliès, à qui Lumière a refusé la vente d'une caméra, c'est pour ça qu'il va faire du cinéma un tout petit peu plus tard qu'Alice, quelques mois plus tard, parce que lui, il va falloir qu'il fabrique son propre matériel. Car ce qu'on ignore à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, il ne nous reste que des grands noms, Gaumont, Pathé, etc., etc. Mais il y avait des centaines d'ingénieurs sur la place de Paris qui fabriquaient leur propre matériel pour filmer et projeter les films.
Alors, elle a eu une belle carrière, Alice Guy. Elle a fait des milliers de films, puisque c'était des petits films à l'époque. C'était des films
courts.
Alors,
au début,
c'était pas des courts-métrages, mais des films courts.
C'est des courts-métrages.
Oui,
c'est quoi la différence entre des courts-métrages, films courts, moyens?
Non, parce que c'est pas ça. C'est que c'était le début de l'histoire de cinéma et tous les opérateurs faisaient des films courts.
Mais comme on a aujourd'hui avec la VR.
Absolument.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la VR, ce serait de la naissance du cinéma, mais c'est une nouvelle. Là, vous avez des présentations de VR, et ben, c'est des tout petits films courts parce que c'est tout nouveau, qu'on teste, qu'on essaye et qu'on regarde un peu comment raconter de la fiction. Mais ce qui était fou avec elle, c'est qu'elle ait décidé de faire costumes, décors, on raconte des histoires. Et une des premières histoires, la fée au chou, c'est quand même sur on vient chercher un couple qui vient chercher des bébés et choisir quel bébé.
Et ce qui est génial, c'est que les bébés filles comme les bébés garçons naissent dans des choux, et pas les filles dans les roses et les garçons dans les choux. Eh ouais.
Bérangère Krief, qui est la marraine de la fête du court-métrage, est assise dans ce studio. Bonjour Bérangère.
Bonjour.
Alors moi, je vous connais comme humoriste, et puis je vous ai vu deux fois cette année quand même dans Joséphine Sarandi et Adopte un veuf, avec le rôle principal aux côtés d'André Dussolier.
Exact.
Et vous avez une belle relation avec le court-métrage parce que vous avez pas mal joué en tant que comédienne dans les courts-métrages. Qu'est-ce qui vous a amené à ça?
Pas tant que ça. Je suis l'univers du court-métrage, j'aime beaucoup. Et ce que je dis toujours, c'est que je trouve que c'est une belle façon de pouvoir s'exercer en tant que cinéaste, et que c'est pas facile de se lancer. Et je compare ça à ce que je connais de mieux, c'est le One Man Show. Et quand on a envie de faire son spectacle, de créer son univers, on écrit un petit sketch, et puis un deuxième, et puis à un moment, ça fait un spectacle. Et je trouve que le court-métrage permet ça, de se dire moi, je peux faire 3-4 minutes. Avec les difficultés que c'est, mais c'est toujours moins difficile qu'un long métrage, donc ça permet aux cinéastes, aux jeunes cinéastes, de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire, et il faut encourager ça.
Et quand on est comédien ou comédienne et qu'on vous demande de jouer dans un court-métrage, comment vous réagissez? Je pose la question aussi bien à Julie Gayet qu'à vous, Bérangère.
Bah, moi, j'aime l'univers du court-métrage. Je ne suis pas du tout là à me dire « Oui, non, mais je ne peux plus en faire. Vous comprenez, j'ai joué avec André Lucelier. » Pas du tout. Bien au contraire. Et c'est plutôt une rencontre, une lecture. Si le projet me plaît, que j'ai envie de le défendre, je le ferai avec plaisir. Donc,
mais c'est un exercice différent que de faire le rôle dans un long.
Voilà, et du coup c'est même Julie plus Gaillet. Difficile finalement puisque
il faut rentrer dans un personnage très bien.
Exactement, et un long métrage le plus difficile c'est les deux premiers jours où on cherche le rôle, où on essaye de rentrer dedans. Après quand on est dans le rôle, ça se déroule et donc c'est beaucoup plus agréable. Donc les deux plus difficiles c'est quand tout le monde apprend à se connaître, les techniciens on se connaît pas encore, on découvre, on essaye de trouver le personnage. Une fois qu'on est dedans, après voilà. Donc c'est ce qu'il y a de plus dur, le cours, finalement.
Oui, il faut être efficace encore plus vite tout de suite.
Ouais. Donc, ou faire des lectures avant, ou se préparer. Et après, il y a les formats courts, il y a les programmes courts, il y a les séries, les web-séries, tout ce qui est court. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait...
Il y a de plus en plus... En fait, on revient...
Pas si court.
On parle du début, mais on revient à ça, en fait, à faire des choses... Les gens se lassent très vite des choses qui durent trop longtemps.
Ouais.
Hier, on avait des spécialistes du court-métrage, et évidemment, ça a l'air évident quand je le dis maintenant, mais c'est vrai, ils nous ont expliqué que aussi grâce à Internet, maintenant, il y avait plein de jeunes créateurs qui allaient sur YouTube et qui créaient leur court-métrage, leur vidéo. Et il y avait un jeune homme qui était là, qui l'année dernière a créé un petit film à partir de Dragon Ball et un manga.
Ouais.
Et il a eu 22 millions de vues dans le monde entier.
Énorme.
Donc les gens, alors lui, il l'a fait gratuitement, comme un geste artistique. Il ne voulait absolument pas gagner d'argent avec ça. Mais évidemment, les compagnies américaines commencent à le contacter gentiment. C'est fou, hein,
ouais,
parce que voilà, 22 millions de vues, ça fait plus qu'Avatar ou que Intouchable.
Le numérique nous apporte des outils pour fabriquer plus facilement et aussi pour financer, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Kiss Kiss Bang Bang, Ulule, les plateformes de crowdfunding.
C'est pas très facile à dire, mais crowdfunding.
De crowdfunding, de financement participatif. On demande d'abord à ses familles, ses copains et autour, et ça s'élargit. Et du coup, même pour le documentaire court, ça a permis à des documentaristes de faire des films plus courts. Donc de s'auto-financer sur des sujets qui ne sont pas forcément ceux... Voilà, après, moi, je suis productrice, donc je parlais longuement de l'importance du producteur.
Ouais.
Mais c'est très intéressant et c'est ce qui est débattu ici pendant ces trois jours, dans l'Agora, dans les rencontres autour. Il y a aussi cette partie du financement.
Emmanuel Gaume, vous vouliez intervenir.
Je trouvais ça magique le chiffre de 22 millions de vues, mais il faut savoir qu'en fait, on est dans des chiffres qui sont du domaine de l'industrie. Hein. Mmh. C'est fou avoir 22 millions de possibilités de montrer ou de vendre un produit, qu'il soit commercial ou artistique, c'est énorme. Eh bien, à l'époque des débuts du cinéma, c'était déjà le cas. Avez-vous une idée de combien de millions de spectateurs il y avait dans les salles de cinéma en 1907-8?
Non.
400
Non, c'était déjà un marché à 6 millions de spectateurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Alors, imaginez, c'était qu'aux États-Unis. Donc, prenez 6 millions aux États-Unis, 4 millions en France, 4 millions en Allemagne. Et le cinéma d'Alice Guy, de tous les premiers cinéastes des tout débuts, ce cinéma a été diffusé dans le monde entier, parce que Gaumont avait même des succursales dans nos fameux comptoirs coloniaux, en Asie, en Afrique, partout dans le monde.
Les garçons arrivent.
Alors, les garçons arrivent. Félix Moati vient de s'installer au micro, en face de Vincent Lacoste, deux potes qui nous font le plaisir de venir dans cette émission. Emmanuel Gaume, je voulais dire que vous avez écrit ce roman. C'est quoi le titre du livre?
Alice Guy, tout simplement, parce qu'on la connaît tellement mal, en fait, que je dis tout le temps Alice Guy. Donc,
Alice Guy.
Le roman s'appelle Alice Guy, le documentaire s'appelle Elle s'appelle Alice Guy.
Alors, il y a un documentaire.
Alice Guy,
Il y a un documentaire en mai 2017.
Qui sera diffusé sur France 3 et qui a été produit par la case des courts et moyens métrages de France 3.
Ça, c'est
absolument.
Super.
Donc c'est un moyen métrage ou un court, je sais pas comment tu pourrais dire, Julie, il fait 58 minutes le film.
Ah bah c'est court.
Et bah voilà, c'est un court.
C'est court.
C'est
on
moyen.
Disait avant moyen et le moyen
quand,
métrage
c'est
ça a
moyen.
Disparu, on dit plus maintenant,
on dit
court, voilà. En dessous de 60 minutes.
Ah,
ah oui, d'accord.
60 minutes, tu es...
Félix Moati n'est pas tout à fait d'accord.
C'est pas ça?
Ah, si, non, j'apprends quelque chose.
Et c'est donc...
Il y a le festival de Brive, qui est plus un festival de moyens, comme on dit, mais ouais. qui, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment, on a dit qu'il fallait arrêter de faire moyen court. C'est court, en dessous de 60 minutes.
Et donc, c'est Alexandra, l'amie, donc, qui est une amie de Julie, qui lui avait présenté Alice Guy, donc, ouais. qui est venue me voir. Elle a demandé à son agent de m'appeler, parce qu'elle a, elle a eu vent de ce projet, et elle voulait absolument incarner Alice dans le documentaire. Donc,
dans le documentaire. Ouais. Mais il y aura un film de fiction un jour.
Oui, il est en préparation, le film voilà. de fiction. J'adorerais en parler avec Julie, d'ailleurs, dès qu'elle est dispo. Je fonce la voir.
Et moi, je sais que dans le film de fiction, il y aura Alice Guy à
très
80
âgée.
Ans.
Ouais, très âgée.
À 80 ans, mais elle est morte à 94 ans.
J'ai envie de faire le film à la fin des années 50, voilà, au moment où on va la reconnaître, en fait.
Voilà, et Alice Guy jeune.
Exactement.
Merci en tout cas.
Bah, merci à vous. Et puis je vais aller animer une petite conférence sur Alice
plaisir.
Guy.
Donc, avec bon, plaisir.
N'hésitez pas à me rejoindre. Hein. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Alors nous restons avec Vincent Lacoste, avec Félix Moati, Bérangère Krief et Julie Gaillet. Julie, comment vous êtes arrivée à être la marraine un peu du court-métrage, la directrice artistique? Comment vous êtes arrivée à défendre le court-métrage, à vous mobiliser et à créer, entre autres avec d'autres personnes, cette fête du court-métrage qui est une fusion entre l'agence du court-métrage, entre une association du court-métrage, et là tout le monde se bat pour le court-métrage ensemble, c'est ça.
C'est ça l'idée.
C'est ça l'idée.
C'est que tout le monde soit réuni et puisse organiser cette fête ensemble. Alors moi j'en ai toujours fait des courts-métrages un peu comme Bérangère. Je faisais 3 courts-métrages par an quoi qu'il arrive comme comédienne. C'était un moyen d'apprendre ou de rencontrer des réalisateurs ou de redonner. Et puis, quand j'ai commencé à produire, ça commençait à être un peu plus difficile pour moi. Du coup, je me disais, nous, on ne produit pas de court-métrage, ou très peu, quand un réalisateur vraiment veut passer au long, parce qu'on ne fait que du long-métrage. Et du coup, je me suis dit, quelle est une manière de continuer à participer au court-métrage? Et j'ai soutenu un festival qui s'appelle Paris Court Devant, qui est entre le MK2 et la BNF, que je soutiens toujours à Paris, voilà, une fois par an. Et en étant dans ce monde du court-métrage et en voyant comment, avec la nouvelle génération, ce qu'on disait tout à l'heure, les nouvelles technologies, tous ces petits outils avec qui on fait des films, qu'il y a vraiment de plus en plus une vraie urgence à éduquer à l'image, à transmettre, à communiquer entre nous, avec tous ceux qui font des petits films, avec la jeune génération qui, eux, sont nés dans l'image, qui zooment, qui montent, qui, il y a quelque chose comme ça de tactile, on prend les objets et on fait des films.
Et de très créatif, du coup.
Et très créatif.
Et de libre.
Moi j'ai pas de limite, j'ai pas internet. Évidemment, le cinéma c'est en salle. De voir ces petits films dans les salles et de remettre dans les salles, c'est vachement important. On a un système français qui est extrêmement bien fait avec le CNC, une TSA, donc une taxe sur les salles qu'on remet dans l'industrie. On aide la distribution, on aide. Comment on va expliquer tout ça à la génération d'après? C'est quoi le droit d'auteur? On a ça, nous, beaucoup, on défend ce droit d'auteur. Et donc, de se dire, bon, bah, il faudrait un lieu où... voilà. Donc déjà, on commence, on monte une association, on se fédère tous. On essaie de créer une fête où on est tous présents, du CNC, en passant par la VR, autant que... Ça résonne, excusez-moi.
Quand vous dites, et je vais poser la question à Félix Moati, à Vincent Lacoste, vous Julie, vous produisez des longs. Est-ce que dans les cours, vous sentez moins de contraintes, je dis au niveau des idées, au niveau des scénarios, et plus de liberté? Parce qu'on connaît les contraintes pour un long métrage.
C'est les deux. C'est-à-dire, quand on regarde Logorama, on se dit qu'ils n'auraient jamais pu le faire. Donc, qui est Logorama, qui est un film d'animation sur des marques, où il y avait toutes les marques qui étaient représentées, de McDo, McDonald's, et qui étaient aux Oscars et aux Césars. Ils n'auraient pas pu le faire en long métrage, parce qu'il aurait fallu avoir les autorisations de chaque marque. C'était impossible. Donc, il y a une plus grande liberté.
Ils auraient un Oscar, c'est ça?
César, Oscar. Oh,
César,
je crois,
Oscar.
Le double, le ouais. Qui est complètement génial. Bon, Logorama, voilà, ça c'est un exemple de comment ça peut vraiment permettre plus de liberté, et à la fois on a moins de moyens, donc il faut trouver d'autres systèmes pour pouvoir parfois réussir à faire les mêmes choses, pas forcément avec les mêmes moyens. Et puis après, produire ou faire un film, c'est faire avec ce qu'on a et que ce soit juste, pas essayer de faire rentrer du 42 dans du 38, ou, donc voilà, il faut que ce soit cohérent et que ça marche. Et donc c'est cette cohérence là qu'on essaie de trouver, qu'on essaie d'apprendre, et on comprend en faisant. Et l'année dernière, il y avait Kian Kojandi qui parlait du faire, et qu'il avait appris avec son monteur en faisant des films de mariage, et que finalement il faut faire, et en faisant on apprend à monter, on apprend à faire, et que le court-métrage ça sert aussi à ça. Voilà.
Félix Moati, qui est comédien, s'est mis au court-métrage en tant que réalisateur.
Oui.
Ouais. Ah, combien vous avez fait de courts-métrages?
Un seul.
Un seul. Avec.
C'est Vincent qui joue dedans, ouais.
Après Suzanne, ça s'appelle?
Après Suzanne.
Voilà.
Ouais.
Et comment vous avez eu l'idée, vous, comédien, de devenir réalisateur? Vous aviez envie longtemps de passer derrière la caméra?
Oui, depuis toujours, oui. Bien sûr. J'avais envie de faire les deux depuis
le début.
Depuis le début.
Et ça a été difficile de faire un court-métrage?
Ça a été difficile dès lors qu'on a voulu le faire assez normalement, c'est-à-dire conventionnellement, en demandant des aides financières, qu'on nous a toutes refusées.
Et donc
d'autres
moyens.
Ça commence bien.
Du coup, j'ai dû escroquer ma grand-mère pour le financer, ce qui est vrai. Hein,
c'est vrai.
Elle m'a dit Tiens, mon fils.
Merci à la grand-mère de Félix.
Et elle m'a donné son code, ce qu'elle n'aurait jamais dû faire. Et du coup, j'ai pris deux fois plus et on l'a fait. On a été sélectionné au Festival de Cannes, donc c'était cool.
C'était génial.
Ouais, c'était super.
Et Vincent, alors, moi j'ai remarqué, Vincent, que depuis 3 ans, vous allez dire, si je me trompe, vous faites, en gros, parce que vous tournez beaucoup, et vous avez raison, trois longs métrages, comme si vous étiez fidèle au court métrage. C'est une volonté ou c'est une coïncidence?
Oh non, pas spécialement, à vrai dire. Non, à vrai dire, c'était le. Enfin, oui, j'avais participé à des courts métrages avant ça.
Oui.
Notamment de Mathieu Sapin et de Victor Boyer, mais bon, c'était plus des un peu des participations. D'ailleurs, le film de Victor Boyer qui était avec Félix. Et en fait, c'était la première fois avec Félix et Antoine de Barry, son film est présenté, L'enfance d'un chef aussi, que je faisais vraiment un court-métrage avec, quelque chose à défendre et tout ça, quoi, où j'acceptais pas uniquement par amitié, quoi.
Ouais.
Mais sinon, non, après dire, je réfléchis pas à ça. Moi, je fais les films qui m'intéressent. Et parfois, il y a des courts-métrages qui m'intéressent, en fait, donc je les fais, quoi. Je vois pas pourquoi je me priverais de faire des courts-métrages parce que je fais des longs-métrages.
Oui, en même temps, on peut vous proposer un long-métrage au même moment et vous avez un choix à faire.
Mais ça, c'est toujours pareil. Hein. Ça, les dates, ça,
ouais.
Voilà,
ils peuvent venir défendre le court-métrage ici au Carreau du Temple et pouvoir être en tournage et le faire quand même.
Bien sûr,
merci d'être là, hein, les amis.
Et est-ce que, d'une manière générale, Julie Gaillet, vous êtes optimiste ou est-ce que, moi, vu de loin, moi qui suis... critique, j'aime pas le mot, mais on va dire chroniqueur cinéma, j'ai du mal à avoir accès aux courts-métrages. J'en vois beaucoup dans les festivals, parce que tous les festivals ont leur section court-métrage, tous, leur sélection à l'Alpe d'Huez, c'est des courts-métrages de comédie, et c'est super drôle, une invention incroyable.
Excellent.
Mais dans pratiquement tous les festivals, et au moins il y a ça, il y a une sélection de courts-métrages, et qui sont toujours intéressants, mais le grand public, à part Internet... Et tout le monde ne va pas sur Internet voir des cours, comment il fait?
C'est pour ça qu'on a monté l'association Faites des cours, faites des films, et avec toutes les associations qui font la promotion du court-métrage dans les festivals ou toute l'année, et de dire on va essayer de trouver un temps fort pour mettre en avant le court-métrage, pour vous montrer des films. Et du coup, vous aurez le site Internet, vous pourrez aller voir, du coup, voir quels sont les acteurs et les tribus, comme on dit nous, du court-métrage, et vous irez à l'agence du cours. Là, ils sont tous présents. Il y a l'Association française des cinémas d'animation, il y a l'Unifrance qui fait le doublage, il y a les diffuseurs, tout le monde est là, donc c'était ça l'idée.
Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué...
Même les druides, comme on dit, les vieux druides de Clermont-Ferrand sont là.
C'est les druides, on les appelle les druides.
C'est
les anciens.
En fait, en France, on ne le sait peut-être pas assez, mais c'est le plus grand festival de court-métrage au monde.
Ouais.
Voilà.
Au monde.
France. Ouais.
C'est pas ça. Oui, c'est quasiment le festival de Cannes du court-métrage.
Exactement.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure, Julie Gaillet, votre métier de productrice. Vous êtes actrice et vous êtes productrice. C'est quoi être productrice de long et de court aujourd'hui?
Donc, c'est appeler Félix Moati après cette émission et dire Félix.
Voilà.
Ça, c'est un projet. Et si on développait, de financer, de soutenir, d'essayer de. Voilà. C'est quoi le projet de ton long métrage, Félix?
Bon, on vient d'avoir
si les affaires se font.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, c'est intéressant, t'as un producteur
Qu'est-ce qu'a dit Félix? J'ai pas entendu.
Que
il vient d'avoir l'avance sur recette.
C'est pas mal pour le long.
Ouais,
c'est énorme.
Ça, c'est super. Est-ce que c'est difficile de faire un long aujourd'hui, Félix? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur le cinéma. Il y aura. Moi, je suis sur les chiffres en ce moment, vous savez, parce que c'est les bilans de l'année 2016. Donc, il y aura 210 millions d'entrées, ce qui est un des meilleurs chiffres d'entrée depuis 40 ans. un des trois meilleurs chiffres d'entrée, donc tout le monde est content. Mais en même temps, il y a 70 films qui se partagent la moitié des entrées. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est concentré.
Bien sûr, bien sûr.
Et il y a 100 ou 200 films en dessous de 50 000 entrées.
Oh ouais.
Donc il y a un problème quand même.
Mais il y a des films formidables qui font moins de 50 000 entrées.
Je fais, par exemple.
c'est vrai, Julie, vous avez raison. Il y a même des films formidables qui font 100 000, 200 000 entrées, ce qui n'a pas l'air d'être un gros chiffre. Ouais. Mais c'est pas mal si dans leur économie, ils se retrouvent sur leurs pieds. Mais il y a beaucoup de films quand même qui...
Ou qui font avancer, parce que tout à coup, ça peut être une référence pour les gens du cinéma. C'est pas forcément... Ouais. Tout est pas...
Oui, mais il y a quand même beaucoup de films qui sont un petit peu des catastrophes industrielles ou des sorties techniques, parce que en dessous de 50 000 entrées, c'est parfois difficile. Ils n'ont pas forcément l'économie d'un film qui fait 50
millions,
000 entrées.
10 millions, 50 000 entrées, c'est pas grand-chose. Ouais. Mais s'il en a coûté 10 000 euros...
merci patron, il a fait 500 000 entrées, il a coûté 100 000 euros.
C'est fabuleux.
Donc voilà, ça c'est une réussite. Est-ce que c'est ça qui est intéressant en France, puisqu'on parle beaucoup de... On ne parle plus de l'exception culturelle, mais on parle beaucoup du cinéma français qui se défend.
C'est la diversité en France.
C'est la diversité.
C'est vraiment la diversité.
C'est ça.
Ouais.
On est d'accord, Julie?
Bérangère. Oui. Non, je rebondis pas, mais je suis d'accord.
Parce qu'on voit les films américains, c'est-à-dire que les 20 premiers films ou 30 premiers films du box-office, c'est des suites, c'est des franchises, c'est des dessins animés, des films d'animation, etc. Et derrière, nous, on a des comédies, on a Chocolat, on a Adopte un veuf, on a des comédies fines, des comédies plus...
On a Victoria. Alors, vous allez voir Victoria. Pour Noël, vous achetez le DVD.
Ouais,
c'est bien. Victoria avec Virginie Efira.
Ah ouais, on a envie de tomber amoureuse de toi. T'es mal, là,
Oui, Victoria, c'est un des très beaux succès de l'année. Superbe film.
On a tous envie à la fin qu'ils retombent ensemble. Pardon.
Voilà. Le jeune premier de l'année 2016. Le jeune premier, on le dit
moi,
pas.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'à aucun moment, sa différence d'âge n'est un problème. Enfin, on va pas développer sur le film.
Ouais, c'est ça.
À aucun moment donné,
c'est ça. On te dit
beau,
pas.
Quand est-ce qu'il sort en DVD? Vous le savez pas, Vincent Lacoste?
6 mois plus tard, a priori, comme tous les autres
films. Bientôt pour Noël.
Je pense que... Pas pour Noël, peut-être après.
Juste après,
ouais, je pense. En général, c'est 6 mois, mais bon.
Donc, après les fêtes, quand on sera sous la couette.
Ouais. Alors, puisqu'on parle du court-métrage, vous allez passer au long. Est-ce que vous continuerez quand même, et soyez...
Ah oui. À faire l'acteur.
Franc, à faire l'acteur, mais à faire... Est-ce qu'il vous arrivera de refaire des courts-métrages? Est-ce que ça peut arriver?
Ah bah, si une histoire se prête.
Parce qu'une fois qu'on passe
évidemment.
Au long, on passe au long, hein. Non, mais c'est pas ça.
Bah, je sais pas, je réfléchis pas trop à ça pour l'instant.
Oui.
Mais si une histoire s'y prête, évidemment, oui. Si une histoire doit être racontée en 10 minutes, elle sera racontée en 10 minutes. Et si elle doit être racontée en 2h30, ce qui peut effrayer Julie Gayet, par exemple, bien sûr.
Bérangère Krief, on peut avoir un peu vos projets?
Alors, mes projets, je serai à Noël chez ma grand-mère le 24.
Ça, c'est un beau projet.
Ça, c'est un projet sympa. Là, j'ai le DVD de mon spectacle qui vient de sortir le 6 décembre. Donc, c'est l'aboutissement de 5 ans de travail.
Ça peut être un cadeau au pied du sapin, ça.
C'est tout à fait un cadeau. Hein, c'est un super cadeau au pied du sapin.
Avec plein de petits cours, de petits sketchs.
Voilà. Et puis,
toujours des longs.
Au printemps, je retournerai avec les producteurs d'Adopte un veuf.
Ouais.
Un film d'Anne de Petrini sur une prof qui est une prof d'anglais qui est titularisée, elle vient de Paris, elle sera titularisée dans le Nord, donc un peu déstabilisée de son quotidien, et voilà, qui va se reconnecter avec sa vocation de prof.
Et c'est parce que vous parlez anglais couramment, à peu près.
Il faudra qu'au mois d'avril, ça soit le cas.
Julie Gayet, la productrice, qu'est-ce que vous avez sur le feu, si j'ose dire? Parce qu'il y a un beau film qui arrive. Moi, j'ai entendu parler de Grave.
De Julia
Ducournau.
Voilà.
Dont on a beaucoup parlé au Festival de Cannes.
Voilà, vous pouvez voir bientôt à Gérard May, présenté à Gérard May.
Et il n'est pas au Festival d'Angers aussi?
Il est à Angers, premier plan. Elle avait son court-métrage à Angers, donc c'est un peu dans la continuité. Elle est très fidèle, Julia, parce qu'elle était à la Semaine de la Critique. Elle avait son court-métrage junior à la Semaine et elle a été avec son long. Et là, et juste avant Sundance, donc c'est assez énorme, c'est-à-dire qu'elle sort aux États-Unis en mars, le 10 mars. Et le film sort en salle le 15 mars, voilà.
C'est quoi Grave? Parce que tout le monde en parle de façon mystérieuse. J'ai vu des affiches un peu sanglantes. Ça a l'air spécial de chez spécial, non?
Moi, j'ai la sensation que dans ce qu'on essaye de faire, c'est des choses qui soient un peu différentes et qui soient un peu une bouffée d'air de quelque chose de nouveau dans le cinéma français.
C'est un premier film.
Voilà, c'est un premier film. C'est un film... d'une jeune réalisatrice de films très personnels qu'on pourrait imaginer d'auteur, et en fait pas du tout, elle utilise le genre et elle fait un film voilà, quand mes copains
hallucinant.
Hallucinant, très moderne, très de cette nouvelle génération, on appelle coming of age dans les festivals.
Et ça doit être génial pour une productrice de découvrir un talent comme ça et de le pousser, de le porter.
Oui, mais c'est ces rencontres où on se croise tous, on se connaît. Enfin, moi, Julia, je la voyais depuis très longtemps. Et un jour, je lui ai dit, un jour, je produirai un de tes films. Voilà, il faut... C'est ça, l'accompagner, trouver le bon chef-op, parler. Enfin, j'imagine, Félix, comment tu travailles
Attendez, moi, j'ai réalisé que 4 jours dans ma vie. Hein,
donc, Alors, donc, tu as utilisé le même chef-op de ton court-métrage pour ton long ou tu changes de chef-opérateur?
Hein, je dois y aller. Je réfléchis à l'équipe technique, ouais, bien sûr.
Ouais. Ouais. Et Vincent, tu joues dedans?
Et moi, je joue dedans, bien sûr. Ouais.
Avec Gérard Depardieu.
Je joue dedans.
Avec Gérard Depardieu.
Excellent. Vincent Lacoste, qu'on avait eu dans Saint-Amour, qu'on a vu dans Julia. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait d'autres films cette année.
Ouais, il y avait... C'est plus longtemps, ça. Non, cette année, j'ai fait 4 films cette année.
4.
Peur de rien.
Peur de rien, de Daniel Arbide.
Daniel Arbide.
Super film.
Qui est vachement bien, d'ailleurs. Malheureusement, ouais. ça n'a pas trop marché, par exemple.
Bah voilà. C'était bien. Alors que c'est, moi, je l'ai vu, c'est super bien. Sur cette jeune fille qui se retrouve à Paris, là. Ouais,
très
super
beau
bien.
Film que j'ai redécouvert après en disant, mince, pourquoi ça n'a pas marché, exemple.
Pourquoi on l'a pas vu?
Pas forcément la bonne date de sortie.
Oui, parce qu'il y a des fois entre 20 et 22 films qui sortent dans la semaine. J'ai un chiffre. Cette année, Julie, il y aura 706 films qui sont sortis en 2016. L'année dernière, c'était 600 et quelques. 700 films, ça fait 2 par
français,
jour.
Non.
C'est,
bah non,
de tout. De tout.
Ah, en tout, ouais,
mais c'est énorme quand même.
Ça aurait fait beaucoup.
C'est
énorme. Il exagère un peu. Quoi.
Et toi, le prochain film, Vincent, tu fais quoi comme prochain film, toi, Vincent?
Moi, je fais le film de Thomas Lilti, là, celui qui a fait Hippocrate.
Hippocrate, génial.
Et je fais là en mars, je pense en mars.
C'est bien.
Ensuite, le film de Félix, voilà, j'ai d'autres projets.
Ouais, c'est bien, vous n'arrêtez pas, quoi.
Je n'arrête absolument pas. Non, mais ceci, je n'ai pas tourné depuis Victoria, là, hein. Ça fait un an et demi, quand même.
Oh là là.
J'arrête pas, mais enfin, je commence un peu
Les réalisateurs boulages, les producteurs boulages. En tout cas, merci à tous. Merci à Vincent Lacoste. Merci à Félix Moati. Merci Bérangère Krief d'être venu, et longue vie. Et merci Julie, et bravo pour tout ce que vous faites pour le court-métrage. Merci.
Avec nous tous.
Et on se retrouve demain avec d'autres invités à 17h pour continuer à parler de cette fête qui est ouverte évidemment au grand public plus que jamais. Et demain, venez nombreux au Carreau du Temple dans cette superbe fête du court-métrage. À demain.
Voilà, c'est
merci.
Ouvert à tous.
Merci.
Ouvert à tous, absolument. À demain.
Retrouvez le grand live de Bruno Kras et ses invités, spéciale fête du court-métrage, en podcast sur séanceradio.com, SoundCloud ou iTunes. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.